Bonjour à tous et à toutes sur les ondes de Transistor et pour le dernier jour du Forum Libé à Lyon. Nous sommes avec un invité qu'il serait incombe de présenter au Forum Libération puisqu'il s'agit du directeur de la rédaction de Libération. Alors Nicolas Demorand, c'est votre premier Forum à Lyon. Quelle est votre impression sur la tenue des débats globalement ?
Ça s'est bien passé. Les derniers débats sont en train de se terminer. On va faire la séance de clôture dans une petite demi-heure. Beau succès pour cette troisième édition du Forum de Lyon. Beau succès public déjà, puisque tous les débats étaient pleins. Public très nombreux, très attentif, très grande qualité d'écoute. Grande qualité de dialogue également quand le public a la parole. Beau débat entre les intervenants. Vrai moment de déconnade quand Stéphane Guillon est monté sur scène. J'ai l'impression que le Forum de Lyon s'est installé dans le calendrier des Lyonnais, on va dire. Les gens que j'ai pu rencontrer dans la rue ici me disent parfois, en s'en plaignant d'ailleurs, que l'événement ne dure pas assez longtemps, que les places, même si elles sont gratuites, sont trop chères, qu'il n'y en a pas assez, qu'ils ne peuvent pas assister à tous les débats en même temps, qu'il faudrait organiser les choses différemment. Bref, il y a encore des marges d'amélioration en termes d'organisation de l'événement, mais en tout cas que l'événement est attendu tous les ans. Donc voilà, je pense que ça s'est quand même très très bien passé et on peut encore organiser mieux les choses. On va voir comment on peut faire. Mais je suis quand même plutôt très heureux. Il y a eu quand même de très beaux moments, en vrai.
J'ai eu la plaquette d'abonnement qui était distribuée en bas dans le hall. Là, et derrière laquelle il est écrit « Notre vrai capital, c'est l'indépendance ». Alors, une citation de Laurent Geoffrin. Et je me demandais justement à ce propos, comment Libération, quotidien papier, négocie-t-il sa place dans le nouveau paysage médiatique ? Est-ce que le Forum Libération, d'ailleurs, ne serait pas une des options de cette renégociation ?
Alors, le problème aujourd'hui pour les quotidiens papier, c'est que le lectorat baisse de manière continue. Ça, c'est une réalité, on va dire, dans le monde occidental. Hein. Dans l'autre monde, ce n'est pas vrai. C'est d'ailleurs exactement l'inverse. Bon. En France, ensuite, ça baisse encore plus. La France est classée, je crois, autour de la 40e place, hein, pour 40e place dans le classement des pays lecteurs de journaux. Donc, c'est une catastrophe. Hein. On n'a jamais beaucoup lu de journaux en France. Bon. Il fut un temps où c'était moins catastrophique que ça, même si ce n'était pas brillant. Où un quotidien était capable de fédérer autour du kiosque une importante communauté, qui était une communauté d'esprit, une communauté, une affinité très forte avec ses lecteurs qui passaient par des options intellectuelles, idéologiques, l'amour d'un ton, d'une écriture, d'un certain nombre de journalistes, leurs plumes, leur façon de voir le monde, etc. Quand le lectorat baisse, aujourd'hui, avec Internet, la communauté se fragmente en plus. C'est-à-dire que vous allez avoir Libé sur Internet, Libé sur Twitter. Donc, vous avez une fragmentation en un certain nombre de micro-communautés. Forum de Libé, c'en est une autre. C'est-à-dire que vous avez ici énormément de gens qui vont passer pendant 3 jours par les forums, qui ne sont pas nécessairement des lecteurs de Libé, mais qui sont proches de Libé et qui sont heureux de venir partager un moment avec Libé, avec les journalistes de Libé, parce qu'on débat aussi avec les visiteurs du forum, tous les soirs du forum. Donc, si vous voulez, un quotidien aujourd'hui est obligé d'exister, évidemment en kiosque, hein, ça, la communauté reste vivante aussi, bien sûr. Elle est de moindre importance, mais un quotidien aujourd'hui est obligé de se déployer sur différents supports, dans différents espaces, et d'être capable de s'adresser à différentes communautés, là où, il y a peu de temps encore, il ne s'adressait qu'à une seule communauté, d'une seule manière, avec un seul produit qui était un quotidien en papier. Et il est certain que On peut faire une comparaison qui n'est pas exactement juste, mais qui peut donner une idée. De la même façon qu'on a pu voir que la crise du disque a obligé l'industrie musicale à développer très fortement le live, les concerts, c'est-à-dire à recréer autre chose parce que le disque ne suffisait plus. La presse papier est aujourd'hui obligée de développer autre chose parce que le produit de base, le quotidien, ne suffit plus.
D'accord. Et pour prolonger un peu cette question, on ne fait pas, à l'évidence, on ne fait pas du journalisme pour le papier comme on en fait pour Internet, je suppose. Dans votre vécu de directeur de rédaction, comment vous choisissez, entre guillemets, ce que vous allez mettre sur le site, ce que vous mettez sur le papier, quel est le dispositif en gros? Est-ce qu'il y a deux rédactions différentes? Enfin, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne.
Alors, le premier critère, ce qu'on appelle la chronologie des médias, hein, c'est-à-dire que c'est le temps qui fait la première distinction. Une information tombe dans la journée, elle arrive d'abord sur le site internet. C'est comme ça. Ou sur le fil Twitter, ou l'un des fils Twitter de Libé. Cette information X, elle tombe d'abord de manière brute. C'est le fait brut. Je ne sais pas, la Bourse de Paris, les valeurs bancaires Davis, Société Générale, BNP, je ne sais pas quoi, perdent moins 15%. Donc ça, c'est l'info brute. Et puis, dans les minutes ou les quarts d'heure qui suivent, cette info va connaître une première contextualisation, puis des éléments, on va dire, de plus-value légère. Trois questions A, X, premier élément d'analyse par le spécialiste de la rédaction, éventuellement un chat avec un expert X ou Y. Ça, c'est offert, hein, c'est gratuit. Et le quotidien papier, lui, va le lendemain offrir entre guillemets, hein, vendre en fait une information beaucoup plus qualitative, beaucoup plus travaillée, beaucoup plus approfondie et mise en scène, ça veut dire de manière graphique, typographique, photographique, journalistique, avec un entretien au plus long cours, un papier d'analyse, de décryptage, enfin bref, une vraie et plus forte plus-value. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est globalement sur ce modèle-là.
Est-ce que ça veut dire pour vous, en conséquence, que le papier se prête encore plus à l'article de fond que l'Internet où les pratiques de lecteurs ne sont pas du tout les mêmes, peut-être?
Bah, aujourd'hui, oui. C'est-à-dire que, comment dire, moi, j'ai pas la mystique du papier, si vous voulez. C'est-à-dire que ma vie d'homme de radio et de matinalier a fait que, quand je me levais au milieu de la nuit, j'ai pris, il y a quelques années, l'habitude de lire les journaux sur mon ordinateur. J'étais abonné à toutes les éditions digitales des journaux. Et donc, au milieu de la nuit, je commençais, pour gagner du temps, à lire en ligne les journaux, hein, pas les sites internet des journaux.
Hein, le journal en PDF.
Voilà, ouais. Le journal en PDF, l'édition digitale. Bon. Donc, j'ai perdu le contact avec le papier déjà depuis de longues années. Bon. Donc, si vous voulez, voilà, encore une fois, la dématérialisation de l'information ne me pose pas de problème. Et je pense que c'est une pente, je ne sais pas si elle est irréversible, personne n'en sait rien. Ça reste quand même sacrément pratique, le papier. Hein. Ne serait-ce que ça, ça reste quand même sacrément pratique. Bon. Mais je pense que le critère, c'est gratuit payant, plus que papier digital. Donc, gratuit payant. Qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on ne paye pas? Je pense que ce qu'on ne paye pas, c'est ce qu'on trouve partout. C'est l'info brute ou l'info à faible plus-value. Ce que je vous disais, plus-value plus 1, plus-value plus 2. Et ce qu'on paye, c'est l'info à fort contenu et à forte plus-value, et à fort travail journalistique, celle qui a mobilisé une équipe, qui, voilà, etc.
À ce propos, vous dites, il me semble, Internet, l'audiovisuel et la radio pillent l'information produite par la presse papier. Je vous ai entendu dire ça plusieurs fois pendant le forum. Est-ce que ce n'est pas un petit peu faire une injustice à, par exemple, un média comme France Culture, où il y a un vrai travail d'investigation, malgré tout, sur des sujets d'actualité ?
Oui. Je vois ce que vous voulez dire. France Culture, c'est une exception absolue hein, dans le paysage médiatique mondial. Je dis bien mondial. Hein. Ça n'a pas d'équivalent. Je parlais, quand je dis que le monde... D'ailleurs, c'est une phrase que j'ai prononcée sur France Culture.
Tout à fait.
Ce que je vois, c'est que les journées dans les rédactions des médias dominants, radio et télé, commencent par la lecture de la presse. Mmh. Et que ça, mais ça, Pierre Bourdieu l'avait noté lui-même. Hein, il avait dit, je cite de mémoire, mais c'est l'idée qui est importante, hein, que... Au fond, seuls les journalistes lisaient tous les journaux, et c'est très très vrai, et que les journalistes s'entrelisent eux-mêmes. La journée d'un journaliste commence par la lecture des journaux, et c'est dans les journaux que les journalistes des rédactions audiovisuelles trouvent les sujets qu'ils vont illustrer. C'est un fait.
Bien sûr.
Hein, c'est un fait. C'est un fait. Donc, vous pouvez, pour vous amuser, faire l'exercice suivant, qui est de regarder les journaux radio, les journaux télé, écouter les journaux radio, voir les sujets des débats dans les talk-shows, voir les questions Internet du jour, etc. Et comparer terme à terme avec les journaux papier, et vous apercevrez qu'il y a une division du travail journalistique. C'est la presse écrite qui fournit. Qui est le grossiste en information des médias audiovisuels. Mmh. Donc, c'est le secteur le plus fragile du monde médiatique, la presse écrite, qui fournit gratuitement la matière première aux médias dominants. Dans ces médias-là, il n'y a plus de cellules d'investigation, il n'y a plus nécessairement de services avec des journalistes hyper spécialisés comme il peut y en avoir. Il y a très souvent fermeture des postes de correspondants dans le monde, bon, etc. L'épure de ça étant les chaînes d'information en continu.
D'accord.
Et effectivement, France Culture est de ce point de vue-là une exception, mais France Culture, ça ne ressemble à rien. Enfin, et c'est très positif dans ma bouche de dire ça.
Justement, il me semble peut-être qu'il y a un paradoxe là, parce que j'ai essayé de compter du moins le nombre d'écoles de journalisme en France. Il a explosé dans ces dernières années, j'en ai compté 34. Et la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi tant de jeunes veulent-ils être journalistes alors que les places se raréfient ? Est-ce qu'il s'agit d'un star system stimulant finalement pour les ambitieux ?
Je ne sais pas. Je pense qu'il y a effectivement une part de fantasme autour du médiatique, on va dire, peut-être plus que du journalistique. Ou du journalisme, le médiatique fait rêver, et parce que dans ses formes les plus dégénérées, il
suscite l'admiration.
Ouais, et puis il fait partie d'un monde qui, par certains côtés, touche le showbiz, le people, bref, le monde de la notoriété, de la gloire et de l'argent. Mmh. Et il y a une confusion. Il y a une confusion extrêmement dangereuse de ce point de vue-là, parce que il faut lire les livres de Pierre-Michel Menger sur l'intermittence du spectacle, parce que c'est au fond exactement le même, ou alors les travaux de Bourdieu et des Bourdieusiens sur la misère de position. Au sein des orchestres symphoniques, entre le premier violon et celui qui joue du triangle, si vous voulez. C'est la même chose dans le champ journalistique. Entre le journaliste précaire et la méga-ultra-star de la profession, C'est le même écart qu'entre l'intermittent qui galère pour avoir un cachet et l'ultra méga star hollywoodienne. Mm-hmm. Bref, on pense faire partie du même univers, oui. Alors qu'on est juste dans des univers qui sont stratosphériquement éloignés. Oui. Et il y a une immense mystification permet aux uns qui ne permet pas aux uns de vivre et qui permet aux autres d'entretenir le précariat. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui joue dans l'attrait de ce métier et qui fait qu'il y a des désillusions absolument tragiques. Quoi.
Et vous, qu'est-ce qui vous a attiré finalement personnellement dans le métier alors ?
Moi, c'était une envie extrêmement profonde, mm-hmm. extrêmement profonde, et une insatisfaction, c'était une insatisfaction en fait par rapport à ce que je lisais, à ce que je voyais à la télé, à ce que j'écoutais à la radio. Et
envie d'apporter quelque
voilà,
chose.
Dans ce voilà, moment. Voilà. Et je me disais, ah, je ferais différemment, j'aimerais
et
bien.
Envie d'apporter quoi alors
Je sais pas, le type de traitement de l'actualité que j'entendais me laissait sur ma faim. Je me disais que l'actualité n'était pas qu'une surface, en fait, qu'il y avait toute une profondeur qu'il était possible d'explorer et qu'il ne l'était pas ou que trop rarement, qu'il y avait des... au fond, que... Ce qu'on appelait l'actualité était un truc extraordinairement étroit et dogmatique, et que c'était un champ qu'il fallait ouvrir et dont il fallait donner une définition beaucoup plus large. Enfin, c'est des choses comme ça, quoi. Et quand je suis arrivé à la matinale de France Culture, c'est là que j'ai vraiment pu commencer à travailler cette question-là, en fait. Faire deux choses, c'est-à-dire considérer que la culture, la vie des idées faisait pleinement partie de l'actualité, et considérer qu'on pouvait se saisir d'un fait de l'actualité, d'actualité au sens strict, pour en donner une lecture beaucoup plus intellectuelle que simplement factuelle. C'était cette double dimension-là sur laquelle j'essayais de travailler.
France Culture était l'endroit idéal pour faire ses armes.
Oui, oui, de ce point de vue-là, oui.
J'aurais une question, là, maintenant, en référence au portrait de Chaïm Lazaros, le Messie de proximité, dans l'article du numéro de Libération de vendredi. En effet, les derniers mots du dernier article de cet avant-dernier numéro de votre journal sont les suivants. « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Or, la presse écrite que vous avez finalement choisie, pour cette presse écrite, vous préférez parler d'influence que de pouvoir. Alors pourquoi avez-vous choisi l'influence et quelle responsabilité du directeur de rédaction d'un grand quotidien comme Libération ?
Je pense que la presse n'a pas la presse a de l'influence dans le sens où on va même étendre, même s'il faudrait nuancer, les médias les médias audiovisuels ont un pouvoir dans le sens où ils ont une force de frappe instantanée qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante que celle de la presse écrite. Mais voilà, ça peut être... c'est la fameuse image qui tue. Hein. Bon. La presse écrite, c'est différent parce que... comme je vous le disais, il y a un côté brutal, c'est la presse écrite est pillée par les médias audiovisuels. La presse écrite, elle détermine une petite musique qui donne le ton, en fait, de la journée, le ton de sur un événement, etc. Donc c'est autre chose. C'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison, etc., etc. Mais ça donne la couleur dans la réception d'un événement, d'un discours, voilà, le bruit de fond, quoi, si
c'est
vous voulez.
Un point de départ. Aussi.
Voilà. Et alors bon, ensuite, vous pouvez. C'est pour, quand je vous dis, c'est pas pour ça qu'elle a raison, hein. Et que même parfois, elle a tout à fait tort. Donc, il y a des ratages. La liste des ratages est tellement grande qu'on pourrait y passer la nuit. Donc, c'est pas un pouvoir au sens fort du terme. C'est plus la capacité à colorer l'air du temps.
À diffuser quelque
chose. Voilà, à diffuser quelque chose. Bon. La responsabilité qu'il y a derrière ça, au fond, c'est l'électorat qui en est le juge de paix. Hein. Je crois que dans la crise du lectorat, la crise du lectorat en presse écrite, on peut se lamenter sur Internet, l'effondrement de la civilisation de la lecture, la crise de la distribution en France, la difficulté du métier de kiosquier. Bref, on peut se lamenter sur plein de choses. Les journalistes ont une part de responsabilité. Il y a une crise de l'offre. Les lecteurs ne sont pas des débiles. S'ils ne veulent pas acheter... si à un moment ils arrêtent d'acheter les journaux, c'est qu'ils estiment qu'ils n'en ont pas pour leur argent aussi. Donc si vous voulez, voilà, la responsabilité à un moment on la paye cash. Voilà.
Et justement, pour finir, j'ai une question un peu intéressée.
Ouais.
Libé est distribué gratuitement à Dauphine, à Sciences Po, à l'ENSAE, dans les grandes écoles de commerce parisiennes. Pourquoi pas à l'ENS Lyon?
C'est un pur scandale.
Parfait.
Voilà, vous avez tout à fait raison. Nous allons y mettre bon ordre.
Eh ben, c'est génial. Alors, merci Nicolas Demorand
d'être
venu nous rencontrer dans le studio.
Merci à vous.
Forum Libé.
Et alors, moi, je tiens à dire un truc quand même. Je vais faire mon vieux con. Donc, à l'époque, j'étais tout à fait effaré d'apprendre que la radio de l'ENS Lyon comptait sous différentes... enfin, bon, bref, quel que soit le mode de comptage, à peu près 33 personnes, 33 collaborateurs. Je crois que c'est absolument essentiel que, à côté des écoles de journalisme classiques, il y ait d'autres voies d'accès au métier, en fait. Je crois que l'un des très, très, très gros problèmes du journalisme français, c'est le moulage unique de la formation. Et qu'à l'intérieur d'une école normale supérieure, on puisse former du journaliste baroque, c'est-à-dire imparfait, étymologiquement, me semble être une très très bonne nouvelle, parce que il faut absolument continuer à ce qu'il y ait des hybridations dans les parcours journalistiques, sinon le poids du conformisme sera mortifère, quoi. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y a 34 écoles de journalisme, elles se ressemblent quand même à peu de choses près, globalement toutes. Et il ne faut pas s'étonner aussi à un moment que tous les journaux se ressemblent et que toutes les télés se ressemblent et qu'on y parle partout sur le même ton. Et que, voilà, et que quand émerge un journal, je prends juste un exemple, Marianne, par exemple, parle très différemment à un moment. C'est un succès instantané. On aime, on n'aime pas, c'est pas le problème. Mais à un moment, il y a un journal qui parle différemment et instantanément trouve son lectorat. Parle-t-il finalement vraiment différemment, oui ou non, c'est un autre problème. Mais en tout cas, le lectorat le voit, le sent, l'entend, voit des unes différentes. Bon, et il faut absolument continuer au sein de l'ENS à essayer de d'écrire différemment, de penser différemment, de trouver des formats différents. Enfin, continuer, les amis.
Merci beaucoup
pour mon travail.
Eh ben super.
Nous vous libérons donc pour la séance de clôture du forum et espérons vous retrouver prochainement sur nos ondes. Alors.
Ah ben avec grand plaisir.
Merci à tous les auditeurs d'avoir passé ce moment avec nous et excellente journée à tous.
Au revoir.